Chapitre 16. Digression historique, partie 2. Les glucides adipogènes. Oh mon Dieu ! Allez-vous tous vous écrier, lecteurs et lectrices. Oh mon Dieu ! Mais voyez-vous donc comme le professeur est barbare ! Voilà que d'un seul mot il proscrit tout ce que nous aimons, ces pains si blancs, ces biscuits, et tant de bonnes choses qui se font avec des farines et du beurre, avec des farines et du sucre, avec des farines, du sucre et des œufs. Il ne fait grâce ni aux pommes de terre, ni aux macaronis. Aurait-on dû s'attendre à cela d'un amateur qui paraissait si bon ? Qu'est-ce que j'entends là ? Ai-je répondu en prenant ma physionomie sévère, que je ne mets qu'une fois l'an. Eh bien, mangez, engraissez, devenez laid, pesant, asthmatique, et mourrez de gras fondu. Je suis là pour en prendre note. Jean-Anthelme Brillat-Savarin, 1825. Jean-Anthelme Brillat-Savarin naquit en 1755. Il devint tout d'abord juriste, puis homme politique. Mais sa passion fut toujours ce qu'il appelait les « plaisirs de la table ». Dans les années 1790, il commença à consigner ses pensées sur le sujet. Elles furent publiées en décembre 1825 sous le titre « La physiologie du goût ». Il mourut d'une pneumonie 2 mois plus tard, mais « La physiologie du goût » a sans cesse été rééditée depuis lors. C'est à la plume de Brillat-Savarin que l'on doit la fameuse maxime « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es ». Parmi les 30 chapitres ou méditations que compte « La physiologie du goût », Brillat-Savarin en consacre 2 à l'obésité, l'un à ses causes et l'autre à la prévention. « En 30 années, écrit-il, il a eu plus de 500 conversations avec des compagnons de table affligés ou menacés d'obésité qui ne faisaient pas mystère de leur penchant immodéré pour le pain, le riz, les pâtes et les pommes de terre. » Brillat-Savarin en conclut que l'obésité a 2 causes évidentes. La première étant une prédisposition naturelle à l'embonpoint. Il est donc vrai qu'il existe des personnes prédestinées en quelque sorte pour l'obésité et dont, toutes choses égales, les puissances digestives élaborent une plus grande quantité de graisse. La seconde étant liée au régime alimentaire. La seconde et principale cause de l'obésité est dans les farines et fécules dont l'homme fait la base de sa nourriture journalière. Et, ajoute l'auteur, la fécule produit plus vite et plus sûrement son effet quand elle est unie au sucre. Voilà qui ne laissait aucun doute concernant le traitement adapté. Le régime anti-obésique, écrit Brillat-Savarin, est indiqué par la cause la plus commune et la plus active de l'obésité. Et puisqu'il est démontré que ce n'est qu'à force de farine et de fécule que les congestions graisseuses se forment, tant chez l'homme que chez les animaux, on peut en déduire comme conséquence exacte qu'une abstinence plus ou moins rigide de tout ce qui est farineux ou féculent conduit à la diminution de l'embonpoint. Comme je l'ai déjà indiqué, presque rien de ce que je vous ai dit jusqu'ici dans ce livre audio n'est nouveau, et la notion selon laquelle ce sont les glucides qui causent l'obésité et que l'abstinence de féculents, de farine et de sucre en est donc la méthode de traitement et de prévention la plus évidente, pas plus qu'une autre. Ce que Brillat-Savarin écrivit en 1825 a été depuis lors répété et réinventé à de nombreuses reprises. Jusque dans les années 1960, c'était ce que tout le monde pensait, pour ainsi dire, naturellement, y compris nos parents et grands-parents. Puis c'est le modèle prônant l'équilibre entre les calories consommées et les calories dépensées qui fut adopté, et à partir de ce moment-là, les régimes comme celui que recommandait Brillat-Savarin furent présentés par les autorités de santé comme des phénomènes de mode dangereux pour la santé ou des concepts nutritionnels bizarres, comme le désigna l'American Medical Association en 1973. En agissant ainsi, les autorités de santé empêchèrent non seulement beaucoup de gens d'essayer ces régimes, mais sans doute aussi les médecins de les promouvoir. Comme le docteur Ornish, un médecin devenu célèbre grâce au régime éponyme dont la composition nutritionnelle est à l'opposé de celle de Brillat-Savarin, c'est-à-dire très pauvre en matière grasse et riche en glucides, se plaît à le dire, et précisément dans ce contexte, on peut perdre du poids par de nombreux moyens nocifs pour notre santé, notamment en consommant des drogues telles que le tabac ou la cocaïne, mais ce n'est pas pour autant une raison de le faire. Il s'agit là d'une des mutations les plus incompréhensibles du siècle passé en matière de nutrition et de régime. En effet, l'idée que les glucides font grossir a existé pendant la plupart des 200 dernières années. Prenons par exemple 2 romans publiés à environ un siècle d'intervalle, Anna Karénine de Tolstoï, écrit au milieu des années 1870, et Herzog de Saltbellow en 1964. Dans le premier, l'amant d'Anna, Alexis Vronsky, s'abstient de manger des glucides pour se préparer à la course de chevaux, qui constitue une des scènes cruciales du roman. Le jour des courses de Krasnoïsselo, Vronsky vint, plutôt que d'habitude, manger un beefsteak dans la salle commune des officiers. Il n'était pas trop rigoureusement tenu à restreindre sa nourriture, son poids répondant aux 4 pudes exigés, mais il ne fallait pas engraisser, et il s'abstenait en conséquence de sucre et de farineux. Dans le second, c'est le personnage principal, Moses Herzog, qui se refuse une friandise sucrée pour des raisons identiques, pensant à l'argent qu'il a dépensé pour des vêtements neufs, qui ne lui irait plus s'il mangeait des glucides. Voilà ce que les médecins ont longtemps cru et expliqué à leurs patients obèses. Or, il est notable que le moment où ils ont changé d'opinion, c'est-à-dire entre les années 1960 et la fin des années 1970, coïncide avec le début de l'épidémie actuelle d'obésité et de diabète. Étant donné que la plupart des médecins d'aujourd'hui sont d'avis qu'éviter les glucides pour perdre du poids reflète une étrange idée de la nutrition, je souhaite résumer ici l'historique de cette conception, afin que vous sachiez d'où elle vient et quelle a été son évolution. Jusque dans les premières années du XXe siècle, les médecins considéraient généralement l'obésité comme une maladie pratiquement incurable, contre laquelle il convenait de tout essayer, comme c'était également le cas du cancer. Inciter les patients à manger moins et ou à faire davantage d'exercice n'était que l'un des nombreux traitements susceptibles d'être envisagés. Publié en 1869, The Practice of Medicine du médecin britannique Thomas Tanner dresse une longue liste de traitements ridicules ayant été prescrits à différentes époques contre l'obésité. Il s'y trouve de tout, des idées surréalistes, comme la saignée de la jugulaire ou la pose de sangsue sur l'anus, mais également certaines idées reçues ayant encore cours aujourd'hui, comme manger des repas très légers composés de substances faciles à digérer, ou passer plusieurs heures chaque jour à marcher ou à monter à cheval. Quelle que soit la persévérance avec laquelle on les suit, écrivit Tanner, tous ces programmes manquent le but visé. Et il en va de même de la simple sobriété en matière d'alimentation et de boissons. Tanner croyait quant à lui que l'abstinence de glucides était une méthode efficace, et peut-être même la seule. Les aliments farineux et végétaux font grossir, et les matières saccharines, c'est-à-dire les aliments sucrés, tout particulièrement. À la même époque, le médecin et chirurgien militaire retraité Jean-François Dansel était parvenu aux mêmes conclusions que son concitoyen Brillat Savarin. En 1844, Dansel présenta ses réflexions sur l'obésité à l'Académie des sciences et en 1863, publia un livre intitulé « Traité théorique et pratique de l'obésité, trop grand en bon point », avec plusieurs observations de guérison de maladies occasionnées ou entretenues par cet état anormal, qui fut traduit en anglais un an plus tard. Dansel affirmait pouvoir guérir tous les obèses sans exception, à condition de pouvoir les amener à se nourrir principalement de viande et à n'ingérer que de petites quantités d'autres aliments. Selon Dansel, si les médecins de cette époque croyaient l'obésité incurable, c'est que l'alimentation qu'ils prescrivaient pour la guérir était précisément celle qui en était la cause. Ce qui est bien sûr également un argument du présent ouvrage. Les auteurs médicaux affirment que c'est à la nourriture que revient le rôle principal dans la production de la corpulence, écrivit-il. Ils interdisent l'usage de la viande et recommandent d'aqueux végétaux tels que les épinards, l'oseille, la salade, les fruits, etc., ainsi que de l'eau pour toute boisson. Et dans le même temps, ils ordonnent aux patients de manger aussi peu que possible. J'affirme, quant à moi, un autre principe, contraire aux opinions reçues, ayant cours depuis des siècles. C'est qu'un régime très substantiel, composé notamment de viande, ne développe pas l'embonpoint tandis que rien n'est plus capable de produire ce dernier que des végétaux aqueux et de l'eau. Sa foi dans un régime principalement carné, Dansel la fondait sur les travaux du chimiste allemand Justus Liebig, qui expliquait à cette époque, à juste titre, que les animaux forment de la graisse en mangeant non des protéines, mais des matières grasses, des féculents et des sucres. Tout aliment autre que la viande, donc tout aliment riche en carbone et en hydrogène, c'est-à-dire hydrate de carbone, ancienne appellation des glucides, tend nécessairement à produire de la graisse, écrivit Dansel. Pour obtenir des résultats satisfaisants, c'est sur ce principe unique que doit reposer un traitement rationnel visant à guérir l'obésité. Dansel nota également, comme l'avait fait Brillat Savarin avant, et comme d'autres le feraient après lui, que les animaux carnivores ne sont jamais gras, contrairement à nombre d'herbivores. On peut citer en premier lieu l'hippopotame, si disgracieux en raison de ses énormes masses de graisse, et qui ne se nourrit que de végétaux, spécialement de joncs, de riz, de millet, de canne à sucre, etc. Le régime fut par la suite réinventé par un médecin britannique, William Harvey, après un séjour à Paris en 1856, au cours duquel il avait assisté à la légendaire conférence de Claude Bernard sur le diabète. Comme à Harvey, il rapporta par la suite, Bernard y avait présenté la façon dont le foie sécrète du glucose, ce même glucide que l'on trouve dans le sucre et les féculents, et avait expliqué que c'est ce taux de glucose sanguin qui était anormalement élevé chez les diabétiques. Cela amena Harvey à s'intéresser au fait, alors bien connu, qu'un régime exempt de sucre et de féculents limite l'excrétion de sucre dans l'urine des diabétiques et à en déduire que le même régime pourrait également permettre de perdre du poids. Sachant également que l'on utilise un régime saccharin et farineux composé de nourritures sucrées et féculentes pour engraisser certains animaux, écrivit Harvey, et qu'avec le diabète, la graisse corporelle tout entière disparaît rapidement, il m'a paru qu'une obésité excessive pouvait être liée au diabète quant à sa cause, bien qu'étant largement différente dans son développement, et que si un régime alimentaire purement animal était utile contre cette dernière affection, l'association d'aliments animaux et de végétaux, ne contenant ni sucre ni amidon, pourrait servir à arrêter la formation excessive de graisse. En août 1862, Harvey prescrivit son régime à un entrepreneur londonien obèse, William Banting, dont j'ai déjà évoqué le parcours au chapitre 3. En mai de l'année suivante, Banting avait perdu plus de 15 kilos. Il allait en perdre au total presque 23, ce qui l'incita à publier un opuscule de 16 pages intitulé « De l'obésité », dans lequel il décrivait ses infructueuses tentatives précédentes pour perdre du poids, et la facilité avec laquelle il y était finalement parvenu en se nourrissant principalement de viande, de poisson, de gibier et de très petites quantités de fruits et de pain sec grillé. Notons toutefois que le régime de Banting incluait une quantité considérable d'alcool, 4 ou 5 verres de vin chaque jour, un verre de liqueur tous les matins et chaque soir un grand verre de gin, de whisky ou de brandy. Le pain, le beurre, le lait, le sucre, la bière et les pommes de terre avaient constitué depuis de nombreuses années la principale partie de ma nourriture, les croyant tout à fait innocents, écrivit Banting. Mon excellent docteur m'expliqua qu'ils contenaient plus ou moins de principes farineux et saccharins, tendant à la formation de la graisse, et qu'il fallait les éviter entièrement. Tout d'abord, je me récriais, pensant qu'il ne me restait plus rien à manger pour vivre. Mais mon bon médecin me fit remarquer qu'il y avait encore bien des divers aliments à ma disposition, et je fus trop heureux d'essayer ce nouveau régime dont, au bout de très peu de jours, j'éprouvais un immense soulagement. De l'obésité devint sur le champ un best-seller et fut traduit dans de nombreuses langues. À l'automne 1864, Napoléon III lui-même essayait le régime Banting, et ce, disait-on, pour son plus grand profit. Bien que dans son livre Banting attribue le mérite de son régime à Harvey, c'est son propre patronyme, Banting, qui devint un verbe anglais, ainsi d'ailleurs qu'un verbe suédois, signifiant « faire un régime ». Et c'est également sur lui que s'abattirent les foudres de la communauté médicale. « Nous avisons M. Banting et toute autre personne de ce genre de ne plus se mêler à l'avenir de littérature médicale, mais de se contenter de s'occuper de ses affaires », écrivit la revue médicale britannique The Lancet. Ce qui n'empêcha pas que lors d'une séance consacrée au régime populaire par le Congrès de médecine interne organisé à Berlin en 1886, le régime de Banting fut présenté comme l'un des trois seuls susceptibles de faire réellement maigrir les patients obèses. Les deux autres en étaient d'ailleurs des variations mineures, développées par des médecins allemands renommés de l'époque. L'un prescrivait une consommation encore plus importante de matières grasses, tandis que l'autre, qui se fondait sur les travaux de Dansel, recommandait une consommation moindre de liquides, des viandes moins grasses et de l'exercice physique. Tous deux autorisaient une consommation illimitée de viande, mais interdisaient presque complètement les féculents et les aliments sucrés. Lorsque Hildebrandt relata cette histoire en 1957, elle nota que le traitement de l'obésité avait peu évolué au cours des décennies qui s'étaient écoulées entre-temps. Le grand progrès qui fut fait dans le contrôle diététique de l'obésité fut de reconnaître que la viande, aliment fort, ne générait pas de graisse, mais que c'était des aliments présumés innocents comme le pain ou les nourritures sucrées qui menaient à l'obésité. Aujourd'hui, il est difficile d'imaginer à quel point la notion selon laquelle les glucides sont adipogènes était répandue, et on le doit aux efforts fournis au cours des 40 dernières années par diverses autorités pour présenter cette conception comme une simple lubie refaisant périodiquement surface. C'est pourquoi je cite ci-après quelques exemples de recommandations diététiques allant dans ce sens, tous issus de la littérature médicale datant d'avant la fin des années 1960. Dans l'édition de 1901 de son ouvrage « The Principles and Practice of Medicine », édité aujourd'hui en français sous le titre « Harrison, principes de médecine internée », William Osler, considéré en Amérique du Nord comme le père de la médecine moderne, conseillait aux femmes obèses d'éviter de manger trop et particulièrement de réduire les féculents et les aliments sucrés. En 1907, James French écrivait dans son manuel de pratique médicale, A Textbook of the Practice of Medicine, « La surappropriation de la nourriture que l'on constate chez les obèses provient en partie de la graisse ingérée avec les aliments, mais plus particulièrement encore des glucides. » En 1925, le médecin Harold Gardner Hill, qui exerçait à la faculté de médecine du St. Thomas's Hospital de Londres, écrivait dans la revue The Lancet à propos de son régime hypoglucidique « Tous les types de pain contiennent une forte proportion, entre 45 et 65% de glucides, et les toasts en contiennent probablement environ 60%. Il convient donc de les bannir. » Entre 1943 et 1952, quatre médecins exerçant dans différents établissements des États-Unis, écoles de médecine des universités Stanford et Harvard, Children's Memorial Hospital de Chicago, Cornell Medical School du New York Hospital, publièrent indépendamment les uns des autres les régimes qu'ils avaient mis au point pour traiter leurs patients obèses. Tous les quatre sont de facto identiques. Voici pour exemple les règles générales de celui de Chicago. Numéro 1. Ne mangez ni sucre, ni miel, ni sirop, ni confiture, ni confiserie. Numéro 2. Ne mangez pas de conserve de fruits au sucre. Numéro 3. Ne mangez ni gâteau, ni biscuit, ni tarte, ni dessert, ni crème glacée, ni glace. Numéro 4. Ne mangez pas d'aliments contenant de la maïzena ou de la farine ajoutée, comme c'est par exemple le cas des sauces liées. Numéro 5. Ne mangez ni pommes de terre, ni de patates douces, ni macaroni, ni spaghetti, ni pâtes d'aucune sorte, ni haricots secs, ni pois secs. Numéro 6. Ne mangez aucun aliment frit, qu'il soit préparé avec du beurre, du sein doux, de l'huile ou un substitut de beurre. Numéro 7. Ne buvez pas de boissons telles que Coca-Cola, ginger ale, soda ou racinette, un soda apprécié en Amérique du Nord. Numéro 8. Ne mangez aucun des aliments proscrits dans le régime et n'en mangez pas plus qu'il ne l'autorise. En 1951, une équipe de sept éminents médecins britanniques menée par Raymond Green, lui-même l'endocrinologue britannique sans doute le plus influent du XXe siècle, et accessoirement frère du romancier Graham Green, coéditait sous le titre « The Practice of Endocrinology » un manuel d'endocrinologie recommandant le régime anti-obésité suivant. Les aliments à éviter. Premièrement, le pain, ainsi que tout autre aliment fabriqué avec de la farine. Deuxièmement, les céréales, y compris les céréales du petit-déjeuner et les milk puddings, termes génériques correspondant à diverses préparations à base de lait et de céréales. Puis les pommes de terre, et tous les légumes racines de couleur blanche. Ensuite les aliments riches en sucre. Et enfin tous les desserts. Les aliments pouvant être mangés à volonté. En premier lieu, la viande, le poisson, la volaille. Également tous les légumes verts. Ensuite les œufs, frais ou en poudre. Aussi le fromage. Et enfin, les fruits sans sucre ajouté. Les fruits sucrés à la saccharine sont autorisés, à l'exception de la banane et du raisin. Voilà ce que presque tout le monde savait à une époque. Et cette conception était si profondément enracinée dans les consciences que lorsque l'US Navy traversa le Pacifique en direction de l'Ouest pour livrer les dernières batailles de la Seconde Guerre mondiale, le très officiel guide des forces armées des États-Unis prévint les soldats qu'ils risquaient d'avoir des difficultés à contrôler leur tour de taille dans les îles Carolines, un archipel situé au nord-est de la Nouvelle-Guinée, parce que l'alimentation de base des indigènes se compose de légumes féculents, fruits de l'arbre à pain, taro, igname, patates douces et tolomane. En 1946, dans la première édition de son best-seller « The Common Sense Book of Baby and Child Care », paru en français sous le titre « Comment soigner et éduquer son enfant », le fameux pédiatre américain Benjamin Spock expliquait « La quantité d'aliments féculents simples, céréales, pain, pommes de terre que l'on absorbe, détermine chez la plupart des gens combien de poids ils prendront ou perdront. » On retrouve cette phrase dans les 5 éditions successives parues au cours des 50 années qui suivirent, ce qui correspond à un total de 50 millions d'exemplaires. En 1963, Sir Stanley Davidson et Reginald Passmore publièrent « Human Nutrition and Dietetics », un manuel considéré par toute une génération de médecins britanniques comme la Bible de la diététique. On peut y lire notamment « Tous les régimes amincissants populaires impliquent une restriction des glucides alimentaires » ou « La consommation d'aliments riches en glucides doit être réduite de façon drastique, car c'est l'attirance excessive pour ces aliments qui constitue la cause la plus commune de l'obésité ». La même année, Passmore collabora à la rédaction pour le British Journal of Nutrition d'un article qui débutait en ces termes. Toutes les femmes savent que les glucides font grossir. C'est là un des aspects du savoir collectif que peu de nutritionnistes se soucient de contester. À cette époque, des médecins qui étudiaient l'efficacité de régimes restreignant l'apport glucidique commencèrent à publier des rapports sur leurs essais ainsi que sur leur propre expérience clinique. Le premier fut publié en 1936 par Per Hansen, médecin en sté nommé Memorial Hospital de Copenhague. Les résultats montraient sans aucune ambiguïté que ces régimes entraînaient des pertes de poids importantes, sans que les patients ne souffrent pour autant de la faim. Des études pionnières furent menées par la société Dupont à Delaware à la fin des années 1940. Nous avions incité nos employés en surpoids à diminuer les portions qu'ils mangeaient, à compter les calories, à limiter les quantités de graisse et de glucides de leur alimentation et à intensifier leur activité physique, expliqua George Gammann, qui dirigeait le département de médecine industrielle de la compagnie. Rien de tout cela n'avait porté ses fruits. Gammann pria alors son collègue Alfred Pennington de se pencher sur le problème, et ce dernier prescrivit à 20 de ses employés un régime composé majoritairement de viande. Les employés perdirent en moyenne 1 kilo par semaine, tout en consommant en moyenne 3000 calories par jour, et rarement moins de 2400, soit environ le double de ce que prescrivent généralement les régimes affamants que l'on persiste à conseiller aujourd'hui. Il est notable que les sujets ne ressentaient pas de faim entre les repas, écrivit Pennington, et qu'ils éprouvaient une énergie physique et un sentiment de bien-être accru. Les sujets de l'étude ne devaient pas dépasser 80 calories de glucides par repas. Dans quelques rares cas, rapporta Pennington, même cette petite quantité de glucides suffit à empêcher la perte de poids, tandis qu'une consommation plus exclusive de protéines et de lipides, sans restriction, s'avérait, elle, efficace. Les résultats obtenus par Pennington chez Dupont furent confirmés dans les années 1950 par Margaret Olsen, qui dirigeait le département de nutrition de l'Université d'État du Michigan, ainsi que par son élève Charlotte Young, travaillant à l'Université Cornell. Olsen rapporta que lorsque des étudiants en surpoids suivaient des régimes conventionnels exigeant d'importantes restrictions, ils perdaient peu de poids et se plaignaient de manquer d'énergie en permanence et de se décourager parce qu'ils étaient obsédés par la faim qui les tenaillait. Lorsqu'au contraire, ils ne mangeaient que quelques centaines de calories issues de glucides par jour, mais beaucoup de protéines et de matières grasses, ils perdaient en moyenne un peu plus d'un kilo par semaine et parlaient d'une sensation de bien-être et de satisfaction. Ils n'avaient aucun problème de faim entre les repas. Ces études se poursuivirent jusque dans les années 1970, certains médecins prescrivant, outre une restriction glucidique, une limitation de la consommation des lipides et des protéines, fixant selon les cas la barre entre 600 et 2100 calories par jour, tandis que d'autres permettaient, parallèlement à une forte restriction glucidique, une consommation illimitée de viande, de volaille et de poisson, protéines et matières grasses à volonté, certains prohibant pratiquement tous les glucides, y compris les légumes verts, tandis que d'autres permettaient d'en manger à hauteur de 400 calories. Ces différentes études furent menées dans des hôpitaux et universités aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, à Cuba, en France, en Allemagne, en Suède et en Suisse. Qu'ils soient prescrits à des adultes ou à des enfants obèses, à des hommes ou à des femmes, tous les régimes aboutissaient invariablement au même résultat. Les personnes qui les suivaient perdaient du poids pratiquement sans effort et ne souffraient que peu ou pas du tout de la faim. Vers le milieu des années 1960, lorsque des médecins commencèrent à organiser régulièrement des colloques consacrés à l'obésité, ceux-ci comprenaient toujours une intervention sur la thérapie nutritionnelle, qui concluait invariablement sur le fait que seuls les régimes pauvres en glucides étaient efficaces. Entre 1967 et 1974, 5 de ces colloques eurent lieu aux États-Unis et en Europe, dont le plus important fut organisé en octobre 1973 au National Institute of Health de Bethesda, dans le Maryland. C'est Charlotte Young de Cornell qui y tint la conférence sur le traitement nutritionnel. Young résuma l'histoire centenaire des glucides adipogènes, citant notamment les travaux réalisés par Pennington chez Dupont et par Olsen à l'Université d'État du Michigan. Puis elle présenta les travaux qu'elle menait elle-même en soumettant des jeunes gens obèses à différents régimes limitant leur rapport énergétique à 1800 calories par jour. Ces régimes comprenaient tous la même quantité de protéines, mais certains bannissaient presque intégralement les glucides, tout en permettant une forte consommation de matières grasses, tandis que d'autres autorisaient quelques centaines de calories d'origine glucidique, mais moins de matières grasses. Il apparaît que la perte de poids, la perte de graisse corporelle et le pourcentage de graisse comparé au poids total perdu sont inversement proportionnels au taux de glucides compris dans l'alimentation, rapporta Young. En d'autres termes, moins ces jeunes gens mangeaient de glucides et plus ils mangeaient de matière grasse, plus ils perdaient de poids et de graisse corporelle. Ce qui est exactement ce que l'on aurait pu prédire sur la base de notre introduction aux fondamentaux de la prise de poids. De plus, comme l'expliqua Yang, tous ces régimes faibles en glucides donnaient d'excellents résultats cliniques. Absence de sensation de faim et d'épuisement, perte de poids satisfaisante et praticabilité dans une optique de réduction pondérale et de contrôle du poids sur le long terme. Malgré de tels résultats, qui se voyaient confirmés par de nombreuses études menées aux quatre coins du monde, et bien que l'on ait atteint une connaissance avancée du métabolisme des graisses, il ne faut pas croire que la communauté médicale et les autorités de santé publique de l'époque aient cerné le vrai problème et eut l'idée de lancer une campagne pour convaincre les personnes grossissant facilement d'éviter au moins les plus adipogènes des aliments riches en glucides, les glucides raffinés, rapidement assimilables, et les sucres. Dans les années 1960, l'obésité était perçue depuis peu comme un trouble de l'alimentation, raison pour laquelle, comme je l'ai expliqué précédemment, la science de la régulation des graisses n'était pas considérée comme intéressante à l'égard de ce problème. Une situation qui n'a d'ailleurs pas changé depuis lors. Si on discutait des notions fondamentales de la prise de poids dans les revues de physiologie, d'endocrinologie et de biochimie, les revues médicales et la littérature sur l'obésité elle-même ne s'intéressaient guère à la régulation des graisses. Et lorsqu'elles le faisaient, comme ce fut le cas en 1963, où parut un long article paru à ce sujet dans le Journal of the American Medical Association, ces publications étaient tout bonnement ignorées. Rares étaient les médecins disposés à accepter un traitement de l'obésité fondé sur la notion que les personnes en surpoids pouvaient manger certains aliments en grande quantité, voire même autant qu'elles le voulaient. Cela allait tout simplement à l'encontre de l'opinion qui s'était alors très généralement répandue, selon laquelle les personnes en surpoids grossissaient principalement parce qu'elles mangeaient trop. Mais la diffusion des fondamentaux de la prise de poids se heurtait également à un problème supplémentaire. Les autorités sanitaires s'étaient en effet ralliées à l'opinion selon laquelle les matières grasses sont une des causes des maladies cardiovasculaires, tandis que les glucides sont bons pour le cœur. C'est pourquoi la fameuse pyramide alimentaire recommandée par le département de l'agriculture des États-Unis allait reléguer les graisses et les huiles tout au sommet, ce qui signifie à ne manger qu'à l'occasion et avec modération, placerait la viande juste au-dessous, car la viande, y compris la viande dite maigre, contient, de même que le poisson et la volaille à un moindre titre, énormément de matière grasse, tandis que placés tout en bas, les glucides exempts de matière grasse, mais néanmoins adipogènes, notion alors tombée dans l'oubli, seraient considérés comme la base d'une alimentation supposée saine. Le postulat selon lequel les glucides seraient bons pour le cœur date des années 1960 et n'a pu être concilié avec l'idée qu'ils nous font grossir. Car si les matières grasses sont une cause d'infarctus, un régime qui remplace les glucides par des aliments gras risquerait de nous être fatal, même s'il nous faisait maigrir au passage. Médecins et nutritionnistes commencèrent donc à tirer à boulet rouge sur les régimes pauvres en glucides parce qu'ils tenaient pour crédible une hypothèse concernant les maladies cardiovasculaires qui, à cette époque, n'avaient fait l'objet que de très peu d'essais et qui, une fois qu'elles auraient été testées, ne se confirmeraient pas. J'y reviendrai bientôt. S'ils tenaient cette hypothèse pour crédible, c'est que des personnes qu'ils respectaient y croyaient. Mais ces personnes y croyaient, elles, à l'instar d'autres personnes qu'elles respectaient de leur côté, et ainsi de suite. Un exemple particulièrement éblouissant en fut fourni par le New York Times en 1965, l'année même où l'American Physiological Society publiait sous le titre « Handbook of Physiology » une somme de 800 pages consacrée à la science du métabolisme des graisses, un sujet que j'ai déjà abordé au chapitre précédent, qui concluait que « les glucides entraînent une sécrétion d'insuline qui entraîne une production de graisse ». Cet article du Times citait quant à lui Jean Mayer, nutritionniste à Harvard, qui déclarait que prescrire au grand public des régimes hypoglucidiques équivalait à faire un massacre. Un massacre. Sur quelle logique Mayer s'appuyait-il? Tout d'abord, expliquait le Times, c'est un fait médical qu'une personne suivant un régime ne peut pas perdre de poids sans réduire son excès calorique, soit en absorbant moins de calories, soit en brûlant plus. Nous savons quant à nous qu'il ne s'agit pas là d'un fait médical. Mais en 1965, les nutritionnistes l'ignoraient, et ils sont encore nombreux à l'ignorer de nos jours. Ensuite, le fait que ces régimes diminuent l'apport glucidique est compensé par une consommation accrue de matières grasses, et c'est leur richesse en lipides, expliqua le Times, qui justifiait que Mayer les condamnait ainsi en parlant de massacre. Et voici la raison pour laquelle ces régimes ont été condamnés depuis lors. L'idée selon laquelle les matières grasses, et tout particulièrement les graisses saturées, sont une des causes des maladies cardiovasculaires, a conduit directement à l'idée que les glucides, eux, contribuaient à prévenir ces maladies. Au début des années 1980, Jane Brody, chroniqueuse au New York Times et journaliste nutrition la plus influente des 40 dernières années, affirmait « il faut manger plus de glucides » et promouvait les féculents et le pain comme aliment de régime. « Non seulement il est ultra branché de manger des pâtes », écrivait-elle, « mais cela peut aussi vous aider à perdre du poids ». En 1983, lorsque les autorités de santé britanniques rédigèrent « Proposition de principe nutritionnel pour l'éducation à la santé en Grande-Bretagne », elles se virent contraintes d'expliquer que les recommandations nutritionnelles faites jusqu'alors au Royaume-Uni, selon lesquelles une limitation de la consommation des glucides permettait de contrôler son poids, allaient désormais à l'encontre de l'évolution actuelle de l'opinion. Cette logique atteignit peut-être le sommet de l'absurdité, c'est en tout cas ce que j'espère, lorsqu'en 1995, l'Association américaine de cardiologie publia une brochure expliquant que l'on pouvait manger pratiquement de tout sans aucun danger, y compris du sucre et des sucreries, à condition que cela contienne peu de matière grasse. Afin de contrôler la quantité et le type de matière grasse, d'acides gras saturés et de cholestérol que vous mangez, conseillait l'Association américaine de cardiologie, choisissez des encas appartenant à d'autres groupes d'aliments comme, par exemple, des biscuits sucrés et des crackers allégés en matière grasse, des bretzels sans sel, des bonbons, du sucre, du sirop, du miel, de la confiture ou de la gelée à tartiner. De telles recommandations, ainsi que le bannissement des régimes amincissants à faible teneur en glucides, pourraient effectivement être appropriées si les matières grasses étaient réellement une cause des maladies cardiovasculaires, ainsi qu'on nous le répète depuis maintenant 50 ans. Mais il y a toujours eu d'abondants éléments pour prouver que cette obsession des matières grasses était inappropriée. Un cas de plus où les autorités de santé se sont, dans un premier temps, trompées elles-mêmes, avant de nous tromper à notre tour, parce qu'elles croyaient détenir la vérité sur un sujet avant même que celui-ci n'ait fait l'objet de recherches significatives. Dans le chapitre suivant, j'analyserai ce que l'histoire de l'espèce humaine peut nous apprendre sur la question de savoir si un régime qui n'exclut que les glucides adipogènes, les féculents, les produits fabriqués avec de la farine et les sucres, est ou non bon pour la santé, même s'il implique de remplacer ces glucides par des quantités assez importantes de matières grasses et de viande. Puis j'aborderai au chapitre 18 ce que les recherches médicales les plus récentes nous apprennent sur la nature d'un régime sain.